Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Patrick Cohen-Akenin.
Bonjour à vous.
Alors, vous publiez un nouvel album avec les Folies Françaises que vous avez cofondé il y a maintenant pas mal d'années. On a dépassé la décennie, c'était en 2000, c'est ça ?
Tout à fait.
Avec Béatrice Martin et François Poli. Un album consacré au petit motet d'André Campra. Vous allez nous parler un peu de cette forme, peut-être pas énormément médiatisée, du petit motet. Je rappelle que vous êtes violoniste donc, et cofondateur de cet ensemble. Alors avant peut-être de nous parler de pourquoi cette envie d'avoir voulu graver dans la cire ces œuvres, justement, décrivez-nous et parlez-nous un peu de cette forme particulière de ces petits motets qui étaient donc comme des motets mais à voilure un peu plus réduite avec une ou trois voix.
Oui, voilà, c'était pour les... Il n'y avait pas toujours un chœur pour les offices dans les cathédrales, et ainsi qu'un orchestre. Et il était de tradition d'écrire des œuvres plus réduites. Les textes, en tout cas, de ces motets sont les mêmes, en fait. D'ailleurs, on en a l'exemple, André Campra, en fait, a repris certains de ces petits motets et les a... réorchestré pour grand effectif quand il en a eu la possibilité, notamment dans les années où il a été à Notre-Dame de Paris. En fait, on adaptait au lieu. Et c'est vrai que quand il a été maître de chapelle à Notre-Dame, le lieu était tellement grand que là, il fallait qu'il faut le remplir avec un effectif plus important. Donc c'est plutôt des œuvres qui étaient destinées à des petites chapelles, à des lieux plus restreints. Et donc à voix seule, à deux voix, à trois voix, avec un accompagnement qui dépasse rarement la formation en trio, c'est-à-dire deux instruments, ça peut être deux violons, deux flûtes. Principalement, c'était les dessus de violon qui accompagnaient ces motets autour de l'orgue, avec un soutien de basse éventuellement, mais autour du grand orgue. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet album à Saint-Michel en tirage autour d'un très bel instrument.
Mais dans le cadre effectivement de la musique religieuse, c'était une des deux formes les plus pratiquées. C'était quelque chose d'assez...
Oui, on en avait besoin pour les offices, tout à fait. Et André Campra en a écrit près de 60, donc c'était une production très importante pour lui. Et on retrouvait ça, en fait, notamment dans les villes de province, parce qu'il a commencé à écrire ça quand il était en province, dans des lieux où il n'y avait pas de grands ensembles, de grands orchestres, comme on pouvait le retrouver après à Versailles ou à Notre-Dame de Paris. Donc on avait l'habitude d'écrire pour ces petits effectifs, et c'était une tradition. Et notamment, c'est une tradition qui nous est venue d'Italie. André Campra, il a un style... plus italienisant que certains...
On est dans une période de mutation quand même.
Voilà, exactement. Et donc il reprend en fait ces traditions italiennes qu'il va mettre à sa sauce avec le goût français voilà, qui le caractérise. Mais,
c'est son apport dans ce genre musical ?
Oui, je pense. Et, c'est une époque, enfin, en tout cas, où ouais, effectivement, il y a un tournant. Et il n'est pas le seul, hein, comme bon, c'est un compositeur moins connu, mais Jean-Baptiste Morin, à la même époque, compose aussi des motets de ce style-là. Bernier, lui, est plus connu, Nicolas Bernier, il nous en a laissé aussi quelques-uns. Mais la production de Campra est assez exceptionnelle par sa qualité. Et je comprends qu'il ait repris d'ailleurs ses pièces, ses petits motets, parce qu'il y avait la matière pour écrire en grand orchestre. Et vraiment une bonne dizaine ont été réorchestrés par lui-même pour un effectif plus important.
Oui, parce que c'était pas une passade, hein, pour lui, il a fait ça pendant plus de 20-25 ans.
Enfin, ah oui, parce qu'il était dans les ordres, en fait, voilà. Il était religieux et donc. Et il a terminé quand même à Notre-Dame de Paris, donc il a une carrière fulgurante comme maître de chapelle, et qu'il a dû quitter quand l'opéra l'a appelé, parce qu'il avait, dans sa musique d'ailleurs, dans le dernier motet, on le ressent un peu, il y a une forme, il y a une tempête par exemple, c'est quand même assez, dans un motet, c'est pas, mais il illustre, ça c'est un peu le style italien, et qui est repris aussi par Bach, il illustre vraiment bien le texte, et donc à ce moment-là, la tempête s'exprime, et il va créer cette tempête avec les violons et l'orgue, et la voix de basse, et c'est vrai que c'est un style très théâtral, et...
On sort du religieux.
Et c'est vrai qu'il va faire une carrière à l'opéra, après, à l'Académie royale de musique, très importante. Et il va devoir quitter, évidemment, la soutane et les offices religieux, et notamment ce poste à Notre-Dame de Paris, parce que ce n'était pas tout à fait compatible.
C'était perçu comment, justement, c'est...
Ah, pas bien.
Quand on sortait un petit peu du rail.
Pas très bien.
Il
y a eu des petits sonnets, des petits poèmes. On faisait ça en poésie à l'époque, mais on envoyait ça au cardinal en disant... Monsieur Campra, attention, il sort un peu du cadre, et il a dû démissionner effectivement de ses fonctions à la suite de son envie d'opéra et de peut-être d'une plus grande reconnaissance, notamment du roi et de Versailles. Et c'est l'époque Louis XV, enfin Régence Louis XV, et il va avoir envie d'une reconnaissance nationale, alors que on le connaît comme pour les motets, mais ça avait un impact moindre que sa production à l'Académie royale de musique.
Dans la globalité de son œuvre, quelle place ces petits motets ont ?
Ben c'est souvent d'ailleurs, les compositeurs commencent par ça, c'est-à-dire c'est une première expérience. C'est vrai qu'avant d'écrire pour une grande symphonie, pour les 24 violons du roi par exemple, à 5 parties et grand chœur, ben, construire harmoniquement ses versets et ses motets, c'est une facilité quand même au départ. Il faut avoir la texture harmonique, mais je pense que beaucoup de compositeurs, il s'est fait un peu la main, donc c'est toute sa production de je dirais avant de monter à Paris. En fait, sa production provinciale, c'est essentiellement ses motets. Et il en a écrit 6 livres, donc c'est vraiment une grosse production. Et au moment de sa gloire, ses motets vont être réédités en un seul recueil. Et ça, c'était aussi pas courant à l'époque, parce que ça coûtait quand même l'imprimerie. Et il a eu un privilège royal pour réimprimer tous ses motets sur un recueil, ce qui pouvait être diffusé dans les différentes villes, différentes cathédrales, où on avait besoin de cette musique pour les offices. Et donc une reconnaissance importante de son travail.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir d'enregistrer ces petits motets là ? La discographie de votre ensemble n'est pas pentagruélique. Il y a des albums, effectivement. Qu'est-ce qui vous... D'ailleurs, cette question pourrait même être valable pour les enregistrements passés et peut-être pour ceux à venir. Qu'est-ce qui vous décide à vraiment enregistrer, pas juste à jouer en concert des œuvres ?
Moi, j'avais très envie... en fait, d'ailleurs, c'est le but des enregistrements qu'on fait chez Cyprès, de travailler avec des instruments historiques. Là, c'est le cas avec cet orgue à Saint-Michel en tirage. C'était le cas avec les concertos de Bach qu'on a enregistrés à Barcelone sur aussi un clavecin historique. Et de faire ce petit motet, mais en situation, pas avec juste un petit positif comme on peut le faire en concert souvent, mais en tribune, avec un grand orgue, et trouver un son autour de cet orgue. En 2010, il y a eu un anniversaire Campra, et on a eu la chance de jouer à Saint-Michel en tirage dans le festival, et il y a un instrument magnifique, et je me suis dit que c'était l'occasion d'enregistrer ces motets, d'autant plus que j'ai fait un travail au niveau d'une recherche de son au niveau des cordes, avec la reconstruction avec le CMBV d'instruments perdus, haute conte, taille et quinte de violon. Et là, j'avais en possession deux dessus de violon, qui est un instrument légèrement plus petit que le violon, et ça m'intéressait de faire ressortir le timbre de ces instruments avec cet orgue. Pourquoi ? Parce que c'est une couleur quand même particulière, l'orgue français. Il y a une nasalité, ça se rapproche de la langue, par exemple. C'est tout à fait différent, par exemple, que l'italien. Et dans le latin, c'est la même chose, parce qu'on a une prononciation à la française qui est différente de la prononciation à Rome. Et la couleur des dessus se rapproche tout à fait du timbre des voix, des on, des an, et donc une plus grande nasalité, et avec l'orgue ça faisait vraiment un équilibre. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'enregistrer des motets, et aussi la qualité surtout de cette production, de ces œuvres. Voilà, c'est vraiment, disons que j'essaye toujours d'enregistrer des pièces qui en valent la peine, et je trouve que ça valait le coup de le graver, de le faire entendre au plus grand nombre.
Les difficultés presque techniques, j'allais dire, dans l'interprétation de ces pièces, est-ce que...
La difficulté pour l'enregistrement, c'était de se retrouver avec les chanteurs de part et d'autre d'une tribune, et ce qui était le cas à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas, donc on doit se poser sur l'orgue, qui est vraiment l'instrument central et au niveau du son et au niveau du soutien, et donc ça c'est la plus grande difficulté, arriver à avoir un équilibre avec ce grand instrument, les trois voix et les deux violons et la basse. Donc une alchimie pas évidente, pour la prise de son aussi, pas simple, parce que on est quand même à 8 mètres de haut, voilà, c'est ça, en dessous des voûtes, avec un gros bazar, mais c'est un peu ça, c'est un orgue, un grand orgue, c'est vraiment une dimension, mais je pense que ça s'entend dans l'enregistrement, c'est-à-dire qu'il y a un soutien, il y a un souffle, et c'était comme ça que c'était interprété à l'époque. On ne faisait jamais de motet avec un petit instrument comme on peut l'entendre aujourd'hui dans les concerts, parce qu'on n'a pas toujours de grandes orgues à disposition.
À titre personnel, vraiment dans les goûts et les couleurs, comme on dit, l'œuvre de Campra dans sa globalité, elle vous touche comment ? Elle est arrivée dans votre vie musicale, que ce soit même au moment de votre éducation musicale jusqu'à aujourd'hui, de quelle manière et comment quel rôle elle joue, mais vraiment, vraiment, vraiment à titre personnel, plus que dans l'histoire de la musique.
Elle m'a toujours touché, moi, parce qu'elle est très expressive, extrêmement expressive. Et voilà, on pourrait se dire du motet, de la musique religieuse, ça peut être un peu barbant. Ben, en fait, il la rend... il y a une émotion qui ressort de cette musique, une ferveur, parce qu'il y croit, parce qu'il est effectivement dans les ordres, il croit ses textes et il les magnifie à travers la musique par des harmonies sublime par ce goût justement italien qui chante, qui porte l'expression. Il y a beaucoup de frottements, beaucoup de... Enfin, ça touche vraiment, on le ressent tout à fait par rapport à certains contemporains. Il y a une qualité d'écriture. Donc voilà, ça m'a toujours touché. Et je trouve que c'est un compositeur qui n'est pas assez joué, pas assez connu.
Sous-estimé, vous pensez ?
Du milieu musical, non, parce qu'on le connaît bien. Mais c'est vrai qu'il est un peu moins connu que d'autres. On avait mis un farce, par exemple, sur Charpentier il y a quelques années, parce qu'il y avait tricentenaire de sa mort. Donc, il y avait eu même... c'était un anniversaire national, une commémoration nationale. Et Campran, on ne l'a pas fait, parce que peut-être on le considère un peu plus mineur, mais je trouve que ça manque un peu. Et, alors, on connaît certains de ses opéras qui sont montés de temps en temps, mais c'est pas un compositeur que les gens vont citer en premier. Et je pense qu'il est dans une transition, comme on disait tout à l'heure, de régence, justement, entre deux grandes périodes. Donc, entre eux, on va dire, pour faire simple, Lully Charpentier puis Rameau, il se retrouve un peu au centre de tout ça et de cette transition, avec effectivement ce goût italien qui prend le pas. Quelque part en France, et le XVIIIe siècle va être très influencé par ce compositeur.
Donc, comme on le disait au début, votre ensemble a 12 ans maintenant. C'était quoi la feuille de route au départ, l'envie derrière, cette volonté d'aborder dans un esprit de musique de chambre le répertoire baroque instrumental et vocal?
D'abord, se faire plaisir et faire plaisir au public. Et faire public, parce que c'est très important cet échange entre le public et nous. Aussi, travailler avec, notamment, on travaille souvent avec des chanteurs, avoir de nombreux échanges avec eux et pas les diriger d'une façon, j'allais dire, un peu dictatoriale, mais qui est vraiment une communion et un échange entre nous.
Oui, d'ailleurs, je crois que vous aimez bien rappeler en général le rôle du chef d'orchestre, comme on l'entend à la baguette, est arrivé beaucoup plus tard.
Tout à fait. C'est une.
Souvent.
On pouvait diriger s'il y avait un gros effectif, ça arrivait, mais principalement, ça se dirigeait du violon. En tout cas, du XVIIIe siècle, on n'a pas idée, mais Mozart dirigeait à Salzbourg du violon, Haydn à Schteradzi du violon. C'était vraiment des concertmeisters et il y a une évidence parce que le son, la production du son quand je joue et donc je dirige en jouant, parle directement, notamment aux chanteurs, notamment aux basses et notamment au public aussi. Donc ça, c'était quelque chose d'important dans la création du groupe, c'est-à-dire de travailler tout ce répertoire baroque, mais comme... il était interprété à l'époque, c'est-à-dire sans chef et dirigé du violon. Donc c'était vraiment la base essentielle. Mais ce qui nous intéressait, c'était aussi d'aborder différents styles et pas se cantonner sur la musique française. Donc beaucoup de Bach, beaucoup de musique italienne. On a même abordé un peu la période classique, Mozart, Haydn, Boccherini. Un répertoire assez large, mais toujours avec une équipe fidèle et un esprit effectivement de musique de chambre et d'échange. Et puis un plaisir. Moi, on me dit souvent à la fin des concerts, c'est incroyable, vous souriez tout le temps. Heureusement que je souris, que je fais pas la tête.
Vous pleurez pas pendant les concerts.
Exactement, parce que je pense que c'est une grande, grande joie d'être là et d'avoir cette chance d'être sur scène, de pouvoir diffuser ça. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose à échanger, à communier avec le public aussi. Et ça arrive souvent, malheureusement, moi, je vais au concert, de voir des gens qui sont très sérieux. Alors, on peut être concentré, trop sérieux, je trouve que non, j'ai cassé un peu cette barrière. C'est ce que essaie le milieu baroque, hein, du concert un peu figé, un peu officiel, comme on a pu le connaître à la période romantique 19e et 20e, là, avec l'orchestre et une barrière un peu une distance, je dirais, et notamment avec le chef. Le chef peut créer une distance. Et je trouve qu'en étant direct, il y a un contact évident avec le public.
Sur ces choix de répertoire, justement, vous avez cité quelques compositeurs, quelques œuvres. Comment vous avancez par rapport à ça? Vous avez des envies, des choses arrivent par hasard parfois, parce que bon, c'est pas le choix qui manque, on pourrait dire, j'imagine, ni les envies parfois. Bon, après, les journées ne font que 24 heures et on ne peut pas tout faire, mais comment votre ensemble et comment vous avancez par rapport à tout ça?
On essaie d'en parler ensemble déjà avec plusieurs musiciens vers où on voudrait travailler. Il faut pas se le cacher, on répond aussi à une demande de concert, parce qu'il faut bien que l'ensemble tourne. Et c'est vrai que maintenant, on cale beaucoup de choses par rapport à des anniversaires. Voilà, 2013, je peux le dire déjà, il y aura un disque Corelli, parce qu'il y aura un tricentenaire Corelli. Mais on a des demandes, et puis c'est aussi des envies personnelles, c'est-à-dire par exemple quelqu'un comme Corelli, je suis violoniste, défendre ce compositeur, le faire connaître, c'est évidemment évident. Donc on essaie de planifier un peu en avance, d'avoir un cheminement assez varié. Enfin, moi c'est ça que j'essaie aussi, c'est que les albums se ressemblent pas et que on puisse avoir de la variété, du plaisir à chaque fois renouvelé. Je me verrais pas faire une intégrale, par exemple. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un disque Leclerc. Ça me serait pas venu à l'idée d'enregistrer toutes les sonates de Leclerc. Donc j'essaie de varier régulièrement les compositeurs et le choix des CD.
Est-ce qu'aussi la sphère baroque a quand même pas mal évolué du côté des musiciens, des interprètes depuis une dizaine, quinzaine d'années. On a énormément maintenant, j'allais dire, de musiciens de qualité. Est-ce que le fait que justement il y ait la concurrence, entre guillemets, que la concurrence soit de plus en plus rude, comment ça intervient ça justement dans sa propre réflexion, d'un côté effectivement son rapport à la musique, donc quelque chose de très personnel ou en petit comité, et de l'autre côté des données, comme vous l'avez dit, un peu économiques aussi, qui peuvent être liées parfois à la demande, etc. Comment on jongle avec tout ça?
Il faut continuer à bien travailler, à chercher, ça c'est essentiel. Nous, dans notre cas, on a la chance d'avoir un groupe assez fidèle, donc on a comme une maturité, une expérience avec le temps qui s'entend, je pense. Donc c'est vrai qu'après 12 ans, même si les premiers concerts, je ne les renie pas, mais on a une évidence un naturel maintenant, une assurance qui se ressent auprès du public et des organisateurs. Moi, je trouve que c'est plutôt stimulant, la concurrence. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Après, c'est vrai que le marché est un peu inondé, donc on est obligé de se partager ces concerts. Donc peut-être on fait un petit peu moins de concerts que ce que pouvaient faire les premiers baroqueux, entre guillemets, parce qu'ils étaient seuls et donc ils avaient un marché énorme et ouvert devant eux. Maintenant, il faut être avoir la maturité et puis de l'originalité toujours, c'est-à-dire essayer de trouver comment construire des programmes, construire des disques assez originaux. Moi, dans ma démarche, c'est essayer d'avoir aussi une authenticité. C'est ce que j'essaye. Par exemple, ces motets, j'aurais pas voulu les enregistrer avec un petit positif. Il y en a des enregistrements comme ça, de petits motets avec positif. On met un théorbe pour faire une couleur. Bon, moi, c'était autour de cette grande orgue. Sans ça, je le faisais pas. C'est toujours cette démarche que je vais avoir. On a fait comme ça les cantates de Bach avec aussi un grand orgue. Ça me paraît un peu une évidence, donc, parce que c'était les instruments que pouvaient posséder les musiciens à l'époque, la couleur, le timbre qu'on pouvait ressentir dans cette musique, et j'essaye de la retrouver et de la retranscrire auprès du public.
Parlé tout à l'heure du son de l'orgue, comment on développe son propre son qu'il soit reconnaissable. Ça, c'est une quête qui se fait tout au long. Comment vous avez, à titre personnel, vraiment évolué par rapport à cette patte, à cette touche de votre ensemble?
On s'est justement toujours attaché à essayer de caractériser les musiques. Et je pense qu'effectivement, le son de la musique de Bach, de la musique française, de la musique italienne, c'est pas le même. Donc on va utiliser des instruments différents, des archets différents, parce que c'est une saveur, c'est une couleur qui est tout à fait différente. Donc on fait de la recherche organologique sur les instruments, sur les archets, même des fois les cordes. On n'utilise pas toujours les mêmes cordes. Donc c'est une petite cuisine interne, mais que le public ressent ou ne ressent pas, mais on essaie d'être au plus juste par rapport à la couleur qu'on pense être la bonne pour cette musique. Et moi, la recherche du son, ça a toujours été très important, la qualité du son, le timbre, le grain du son. J'essaie de pas faire des esbroufes, quoi. C'est-à-dire pas faire semblant, mais d'être au cœur de la musique que je veux défendre. Et pour ça, y a beaucoup de travail et de recherche personnelle. Et le son, après, il évolue par rapport, encore une fois, aux instruments avec lesquels on joue, ou les instruments qu'on utilise, c'est essentiel. Et puis, avec le temps, il se bonifie, je l'espère, comme du bon vin.
En tant que violoniste, cette quête du son, vous l'avez... C'était une évidence rapidement pour vous dans votre parcours de jeune étudiant de violon. Comment ça s'est fait?
Vous savez, le violon, il y a quatre cordes sur un instrument. Alors évidemment, la qualité de l'instrument est importante, mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une qualité de son. Je crois que c'est Corelli qui disait que essentiellement, ce qu'on entendait, c'était une pureté du son, une couleur qui chante, et notamment ce rapport avec la voix. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les chanteurs, et d'essayer d'imiter avec le violon des voix, des timbres de voix, ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Et parce qu'une fausse note peut passer, il y a des anecdotes comme ça, hein, on peut faire une fausse note, mais il faut qu'elle soit belle et elle passe. Et c'est vrai que je pense que c'est très important, la qualité du son, du timbre, les différentes couleurs qu'on peut avoir, et pas avoir quelque chose de très uniforme et d'un peu basique, un peu gris. Et donc c'est une démarche effectivement importante de trouver des couleurs et des timbres appropriés à la musique que l'on joue, quoi.
Quand vous regardez rétrospectivement les 12 années des Folies Françaises, comment vous trouvez que l'enfant a évolué, etc., quel parcours? Alors, c'est peut-être finalement 12 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Quand vous parcourez l'album, quels sont les domaines dans lesquels vous serez le plus fier, par exemple, des accomplissements, que ce soit en termes de disques, de projets? On parlera également après, il y a pas mal de choses qui sont liées aussi parfois à la pédagogie ou à la formation, ce genre de choses.
Le travail de reconstitution avec les 24 violons du roi, et le travail que j'ai pu élaborer avec le CMBV et des luthiers, ça, c'est vrai que c'est une maturité, un travail de recherche qui m'a nourri depuis de nombreuses années. Et la maturité qu'on a pu aussi avoir dans Bach, parce qu'il y a peu d'ensembles baroques français qui jouent ce répertoire-là, et notamment instrumental. Et je suis content d'avoir bien abouti. Effectivement, on a fait plusieurs disques Bach qui ont été bien critiqués, et donc je pense qu'on est reconnu à ce niveau-là. Moi, je suis pas parti dans les créneaux d'opéra, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui porte plus au niveau du public. On en a fait un peu régulièrement. On n'a pas accroché de maison d'opéra, on n'a pas derrière nous une maison de production pour nous soutenir. Donc à ce niveau-là, c'est un peu plus difficile actuellement. Et on est plus reconnu comme un ensemble instrumental. J'ai la chance d'être entouré par d'excellents musiciens. Et ensemble, je pense qu'on a, on a une reconnaissance et du public et des organisateurs. Donc ça nous permet d'avoir quand même une régularité dans les concerts et de bonnes critiques au niveau des disques. Le petit regret que je pourrais avoir, c'est effectivement de pas pouvoir aboutir régulièrement à une belle production d'opéra, parce que je manque de soutien, et financier certainement, et de staff, de maisons d'opéra et de théâtre.
La transmission, la formation, c'est des choses importantes. Vous avez eu ce projet Pépinière des voix, enfin il y a d'autres choses. Comment ça, quel part ça, quel rôle ça joue dans votre, la globalité de votre démarche?
C'est très important. Là, ce matin, j'enseignais à mes élèves. J'ai toujours enseigné. Je pense que il faut pouvoir retransmettre ce qu'on a, on a reçu et notre expérience. Et c'est vrai que maintenant, j'ai acquis une certaine expérience sur la musique ancienne. Je forme notamment beaucoup de violonistes que je réintègre, notamment dans des productions plus grandes, au sein des Folies, parce qu'ils ont tout de suite... Ils ont une facilité pour s'intégrer dans la petite formation du fait qu'ils me connaissent bien, que je les ai formés, ils savent que j'ai ce rapport avec le son, cette recherche d'une qualité sonore, d'un timbre. Et le travail avec les jeunes chanteurs, ça m'a toujours aussi passionné de pouvoir les faire, leur faire découvrir pour certains la musique baroque parce qu'ils ne la connaissent pas encore bien et leur donner des pistes et des tuyaux pour bien s'exprimer. Parce que je trouve que, notamment la musique baroque française, il y a tout un langage qu'il faut avoir digéré, d'agrément, de petites subtilités vocales, de clarté dans la diction qui demande d'être acquise. Et c'est vrai que ce soit moi ou Béatrice Martin au clavecin, qui, avec les arts florissants, parce qu'elle est assistante de Bill depuis longtemps, a acquis et on peut retransmettre ça, je pense, de façon assez performante.
Justement, sur ce chapitre de l'enseignement, Béatrice Martin, que vous venez de citer, qui est donc claveciniste, cofondatrice de l'ensemble et qui partage en plus votre vie, avait, quand je l'avais lancée la dernière fois, quand elle était venue il y a un an, sur le chapitre de trouver sa propre voie, couper le cordon avec ses maîtres, elle avait dit que ce qui lui avait vraiment fait passer un cap par rapport à ça, c'était justement l'enseignement. C'était en enseignant qu'elle avait réussi à avancer sur cet aspect-là. Est-ce que c'est l'enseignement joue pour vous un rôle un peu similaire ou...
En tout cas, c'est un bon miroir là, d'enseigner. C'est-à-dire qu'on est obligé de se poser de réelles questions. Et c'est vrai que je ne dis pas que j'ai déjà fait une école, mais enfin, en tout cas... Dans le milieu baroque, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de collègues qui disent « Oui, mais toi, tu formes vraiment des gens » et on les reconnaît, quoi. Il y a un son. Et l'ensemble des Folies Françaises, quand on se retrouve en orchestre, il y a une qualité de son. Enfin, je me souviens de Dominique Meyer, ancien directeur du Théâtre des Champs-Élysées, me disant « Mais ton ensemble, il sonne formidablement. » Et il en avait entendu des orchestres dans son théâtre. Et je pense qu'il y a je m'y attache beaucoup. Et donc, il y a quelque chose qui ressort. Tous mes élèves ont cette patte sonore. Donc, est-ce que ça crée une école comme Sigiswald a pu en créer une en Belgique? J'en suis peut-être pas encore là, mais en tout cas, j'y veille et c'est très important. Après, est-ce que ça permet de couper? Oui, j'ai pas été très attaché à un maître, à une esthétique. J'ai pris.
Il y a une évidence pour de votre propre voix, assez jeune, assez rapide.
Oui, je pense. Je pense. En tout cas, j'avais envie de m'exprimer peut-être un petit peu différemment que certains de mes collègues. Et donc, j'ai pas. J'ai pris ce qu'il fallait prendre dans des rencontres. Des rencontres qui étaient souvent d'ailleurs plus liées à des productions, à des concerts, à des moments privilégiés avec un artiste que vraiment à des cours avec un maître. Et après, est-ce que l'enseignement ça nous permet de couper? Je pense que ça permet surtout d'affirmer une personnalité. Voilà, on affirme, parce qu'on est bien obligé pour les étudiants de dire voilà, c'est comme ça, même si peut-être dans 10 ans 15 ans on changera, mais sur le moment on doit affirmer pour les rassurer et leur donner une certaine assurance. Et c'est vrai que de ce fait là ça nous rassure aussi, ça nous affirme dans un cadre qui est exact, parce que c'est pas une science exacte, la musique. C'est-à-dire que moi je le dis souvent et je pense que ça doit être comme ça. Moi, je ne vais jamais interpréter deux fois de la même manière. Ça ne me paraît pas possible. On n'est pas des machines. Donc, on va, selon le lieu, selon le temps qu'il fait, selon la façon dont on est, on va s'exprimer différemment. Et je pense que, aussi, avec l'âge, on modifie un peu sa vision, on s'assagit un peu. Ah, c'est vrai que jeune, on a une certaine fougue et on veut peut-être jouer vite et fort, et qu'avec l'âge, on va rentrer plus dans les heures, avoir un certain recul par rapport à la partition. Camille me demandait pour quand les sonates et partitas. Je pense que c'est ça. Je pense que pour jouer ça, il faut avoir un grand recul et il faut une... les avoir digérés totalement. Et il n'y a que là, j'ai l'expérience qui le fait. Et là, c'est vrai que, et l'ensemble et moi-même, on arrive à une certaine maturité qui est agréable pour s'exprimer et qui, je pense, que par rapport aux étudiants, ça se ressent. Quand il est temps,
quel impact a le fait de partager la vie d'une personne avec qui on fait de la musique quotidienne. Je mets de côté l'aspect people. Hein. Vraiment, musicalement, le fait de se retrouver, de partager dans la vie privée une relation avec une personne avec qui, musicalement, justement, il y a aussi en permanence une réflexion, un travail, etc.
Dans mon cas, c'est une claveciniste et ça, c'est très important parce que moi, la musique ancienne, j'y suis venu vers 28 ans. Elle y est tombée dedans, elle avait 6 ans. Donc en fait, quand elle est arrivée à 20 ans, elle avait déjà une 14 ans de maturité et moi, j'en avais donc 28, je commençais. Donc elle m'a insufflé, elle m'a donné ce goût de la musique ancienne et aussi l'instrument, le clavecin, c'est l'instrument central. de l'orchestre baroque et de la musique baroque. La façon d'articuler le son, de produire le son, de faire des nuances avec un instrument qui en fait a deux claviers et n'a pas toute la dynamique d'un piano forte après et qui va ouvrir sur le 19e, le romantisme. J'ai, à ses côtés, compris en fait la façon de produire le son et ça m'a été extrêmement utile dans même ma propre façon d'aborder le violon baroque. Donc ça a été vraiment primordial. Et le travail qu'on a pu faire, par exemple, sur les sonates et pour violon et clavecin obligé, j'étais obligé d'imiter le clavecin et des cordes frottées imitant des cordes pincées, c'est pas si évident. Mais Bach a voulu ça dans sa musique et je pense que c'est une œuvre très intéressante pour s'obliger à aller dans ce monde de musique baroque et de musique ancienne. Donc cet échange et ce mélange entre le violon et le clavecin, qui sont au départ des instruments qui ne sont pas spécialement faits pour jouer ensemble. Le clavecin est vraiment un instrument de continuo, mais il y a une telle précision, on est obligé de se formater dans une autre esthétique que celle qu'on a apprise en tant que violoniste, qui n'était pas du tout cette précision d'attaque, cette netteté. On est plutôt dans un vibrato, une patte de son, et là, avec le clavecin, on est obligé d'aller au cœur des articulations. Et ça, c'était très intéressant, notamment au quotidien avec Béatrice.
Quand vous ne faites pas de musique, quand vous n'en jouez pas, vous en écoutez beaucoup chez vous ou en vacances ou, est-ce que avez des phases?
J'en écoute, mais je préfère aller au concert que d'écouter des disques. Bon, je trouve que c'est le spectacle vivant me touche plus. Mais évidemment, j'en écoute parce que pour découvrir des musiques, ou pour découvrir des interprètes, ou comme ça, des coups de cœur. Ça peut se faire à la radio, ça peut se faire en achetant. Mais sinon, j'avoue que comme on en fait beaucoup, c'est-à-dire que même dans le silence, on a beaucoup de musique dans notre tête. Et alors, si, je vais écouter d'autres musiques, voilà, de la musique, du jazz, de variété, des choses qui vont
éloigner de ce que vous jouez.
Un petit peu éloigné. J'aime pas trop. Par exemple, j'écoute jamais d'autres interprétations de ce que je vais faire. Jamais, jamais, jamais. Ça me serait impossible. J'ai besoin d'être vierge absolument sur les partitions que j'étudie. Donc, je veux pas absolument pas aller comparer des choses. Je peux écouter après, des fois. Ça m'arrive quand j'ai enregistré un disque d'aller écouter.
Vous avez eu des surprises, justement?
Bah, ça m'intéresse.
Bonne ou mauvaise.
Ça m'intéresse de voir ce que les autres, sur les mêmes œuvres vont avoir dit, mais pas avant. Alors ça, pour pas aller, parce que forcément, on va vouloir faire pareil, on va la voir différent. Non, je pense que ça peut se rapprocher et en étant différent, je pense. Enfin, je veux rester absolument neutre. Puis sinon, moi, j'ai plein de hobbies autres que la musique, donc j'arrive à bien m'occuper sans trop écouter de musique non plus.
Quels sont les projets à court ou moyen terme de votre ensemble?
Le
disco à la scène.
un gros travail sur la musique italienne. Donc Arcangeli Corelli, Alessandro Scarlatti avec des Lamentations pour la Semaine Sainte. J'ai même fait une commande contemporaine pour aller avec ce programme qui va être écrite par Thierry Pécou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va venir? Du Bach encore, des cantates Ascension Pentecôte, un beau programme qui va s'appeler Folia Italiana, autour justement des folies d'Espagne, donc Folia de Corelli, Scarlatti et Vivaldi, avec des cantates aussi de compositeurs italiens comme Scarlatti, Vivaldi. Et, je pense un programme assez enlevé qu'on va donner plusieurs fois l'automne prochain. Puis l'utilité très proche, c'est l'Académie des 24 violons, puisque le CMBV m'a demandé de diriger en fait une grande bande avec un beau projet, 20 français, 20 anglais, et des concerts qui vont avoir lieu justement dans les deux pays. On va être à Versailles le 22 juin, à Ardelot le 23 juin, et après à Officiel de Montpellier au mois de juillet, le 24 juillet, et le 28 juillet à Londres pour les proms, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc je pense que ça va être assez grandiose et intéressant de se retrouver à Londres à ce moment-là avec vraiment un très beau projet communautaire avec les étudiants anglais.
Bon, alors pour s'échauffer avant les JO de Londres, on pourra toujours écouter donc ces petits motets d'André Campra qui viennent de paraître chez Cyprès. Merci Patrick Cohen-Akenin.
Merci à vous.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.